Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, se fera une création nouvelle et vous renouvellerez la face de la terre. Prions, ô Dieu qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse de ces divines consolations. Par le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous, Saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, donc sur le polycopier de l'Évangile selon Saint Jean, qui contient les cinq premiers chapitres de Saint Jean, nous sommes à la page 6, verset 4 du chapitre 1. Donc nous sommes dans la partie la plus élevée, peut-être théologiquement parlant, des quatre évangiles. Ce sont des passages un peu compliqués, un peu difficiles. Bon, j'essaie de vous les expliquer à partir des pères de l'Église, mais j'avoue que ce n'est pas toujours très facile. Donc ne vous découragez pas, ceux qui m'écoutent, j'ai déjà dit expliquer ces choses-là la dernière fois. Donc nous allons reprendre ces dernier texte. Donc le Verbe était avec Dieu, le Verbe était Dieu, était au commencement avec Dieu, et toutes choses ont été faites par lui. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. En lui était la vie. Donc nous sommes maintenant à cet endroit-là. Chapitre 1 de Saint Jean, verset 4. Donc toutes choses ont été faites en lui. Comment elles étaient faites? Elles ont été faites par lui. Lui, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Donc les choses ont été faites en lui, par lui, pour lui. Donc il y a différentes façons de ponctuer ce texte. Donc il y a des querelles d'exégètes, la façon de ponctuer cette partie du chapitre 1er de Saint Jean. Je ne vais pas rentrer dans ces considérations qui sont des considérations, je dirais, des pinaillements entre exégètes. Il vaut mieux suivre tout simplement la traduction et la ponctuation traditionnelle. Il faut donc préférer cette ponctuation, ce qui a été fait était vie en lui. Alors, l'important, c'est de bien comprendre le texte. En lui était la vie. Notre Seigneur ne veut pas dire que si tout ce qui a été fait en lui est vie, donc la terre est vie, la pierre est vie, etc. N'oublions pas que les choses soient très claires dans l'esprit de nos fidèles dans ce domaine. Là, on touche à la philosophie. La vie, c'est l'âme. C'est l'âme qui permet la vie. S'il n'y a pas d'âme, il n'y a pas de vie. Il ne peut pas y avoir de vie sans âme. Alors attention, il faut bien comprendre le sens. J'ai déjà expliqué ces choses plusieurs fois, mais j'y reviens parce que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de confusion chez nos fidèles. Donc, dès qu'on a un être vivant en face de nous, qui n'est pas forcément un être raisonnable, vous savez qu'il y a des êtres raisonnables et des êtres sans raison. Les êtres raisonnables, il n'y a que deux sortes dans les créatures de Dieu, les anges et les hommes, point final. Par contre, pour les êtres inférieurs à l'homme, il y a plusieurs niveaux. La vie qui existe dans un chat n'est pas la même vie qui existe dans une feuille d'arbre. Cependant, la feuille d'arbre est vivante. Bon, la vie qui existe, par exemple, dans une fleur n'est pas la même forme de vie qui peut exister dans un animal. Mais quand il y a vie, il y a âme. Âme philosophique. Ainsi, un rocher par exemple, une pierre qui n'a pas de vie, n'a pas d'âme philosophique. Pourtant, une pierre peut bouger. Prenez par exemple de la lave d'un volcan en éruption. Cette lave va se déplacer. Est-ce qu'elle a de la vie pour autant? Non. Elle est inerte. Ce n'est pas une chose vivante. Donc il n'y a pas d'âme philosophique dans une pierre. dans une fleur, dans une plante, dans un arbre par exemple, il y a une âme qu'on appelle l'âme végétative. L'âme végétative, ça veut dire que cette créature de Dieu, puisqu'une plante est une créature de Dieu, cette créature de Dieu a une vie végétative. Elle grandit. Elle va se développer à partir d'une graine, va se développer une plantule, et ensuite un arbre ou une fleur qui va donner des fruits. La vie chez un animal est déjà plus élevée, parce qu'il n'y a pas simplement une âme végétative, mais qui complète cette âme végétative, il y a en complément de cette âme végétative une âme qu'on appelle une âme sensitive. Un chat, par exemple, ou un chien peut vivre d'une âme végétative, c'est-à-dire qu'ils vivent, mais ils sentent aussi les choses, dans le sens que si vous tirez, par exemple, sur la queue d'un chat, il va réagir. Vous tirez sur une branche d'arbre, l'arbre ne réagit pas, la branche ne réagit pas, et pourtant la branche est vivante. Quand on passe au troisième niveau, à savoir au niveau des hommes, il faut savoir que l'homme a une âme qui est à la fois végétative, sensitive et raisonnable. Bon. On peut passer encore au niveau supérieur. Le niveau supérieur à celui de l'homme, c'est celui des anges. Les anges sont des purs esprits. Donc, un ange, strictement parlant, est une âme sans corps, mais une âme qui n'est pas une âme végétative et une âme sensitive, c'est une âme raisonnable, pure, qui n'a pas besoin d'un corps pour être complète. Et ce sont des choses assez compliquées. Mais je crois qu'il faut quand même que nos fidèles fassent attention à ne pas utiliser des termes qui sont trop dangereux. Quand on parle d'âme raisonnable, c'est le cas pour les hommes et pour les anges, on parle immédiatement d'intelligence. Il ne peut y avoir d'intelligence que dans une âme raisonnable. Il n'y a pas d'intelligence avec une âme sensitive ou une âme végétative. Donc il ne peut pas y avoir d'intelligence dans une branche d'arbre, dans une fleur, dans un animal. Même un animal qui est supposé être au sommet de la chaîne animale. Par exemple, un dauphin n'a aucune intelligence. Un chien n'a aucune intelligence. Donc il ne faut pas utiliser ce terme qu'on entend beaucoup trop souvent chez nos fidèles. « Non mais j'ai un chien très intelligent. » Non, votre chien a peut-être des réflexes plus ou moins développés. Vous avez peut-être pu lui apprendre un certain nombre de choses à faire, d'obéir à des ordres tout simples comme assis, debout, couché. Il va obéir, mais il obéit sans intelligence. Il ne peut pas comprendre les choses. N'oubliez pas, qu'est-ce que c'est que l'intelligence ? L'intelligence, c'est un système qui nous permet d'atteindre le vrai. Pour atteindre le vrai, avoir la connaissance du vrai, il faut une âme raisonnable. Donc une créature qui n'a qu'une âme végétative ou une âme sensitive est incapable de connaître le vrai. Donc il ne faut pas dire qu'un chien ou un dauphin sont des êtres intelligents. Non, ce ne sont pas des êtres intelligents parce qu'ils n'ont pas d'âme raisonnable. Gardons-nous de cette interprétation inconvenante de donner à la terre une vie, à la pierre une vie, comme ce qui serait commun avec les manichéens, et nous ferait tenir avec eux ce langage absurde qu'une pierre, qu'une muraille ont en elle la vie. Les manichéens étaient des cathares, en fait. Les cathares d'aujourd'hui, les cathares du XIIIe siècle étaient des manichéens. Bon, c'est Saint Augustin surtout qui a beaucoup lutté contre les manichéens. Ensuite, les dominicains ont lutté contre les manichéens aussi, également. Les manichéens étaient des gens qui croyaient à un double dieu, double divinité, une divinité du mal, une divinité du bien. Ils associaient à la divinité du mal la matière, et ils associaient à la divinité du bien l'esprit. Donc l'esprit est au dieu bon, ce que la matière est au dieu mauvais. Bon, c'est Saint Augustin surtout qui a lutté contre ça. Alors, bon, évidemment, on se pose la question, pourquoi est-il écrit « ce qui a été fait en lui était vie » bon. Donc il faut préférer cette ponctuation, ce qui a été fait était vie en lui. Donc quel est le sens de ces paroles ? Voilà ce que disent ici les pères, donc toujours page 6. La terre a été faite, mais la terre qui a été faite n'est point la vie. Ce qui est vie, c'est cette raison, cette pensée éternelle qui existe dans la sagesse de Dieu en vertu de laquelle la terre a été faite. Donc il y a une vie surnaturelle, en Dieu si vous voulez. Dieu est au-dessus, et la vie même, avec un V majuscule, mais il va donner une partie de cette vie aux âmes raisonnables. L'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Il ne faut pas oublier ça. Au moins, tous les hommes ont été créés à l'image de Dieu dans le sens que tous les hommes ont une âme raisonnable. On est créé à l'image de Dieu par notre âme raisonnable, pas par notre âme végétative ou notre âme sensitive, puisque Dieu n'a pas d'âme végétative et d'âme sensitive. Donc, en notre Seigneur Jésus-Christ, qui a une double nature, une nature humaine et une nature divine, il y a une véritable intelligence en lui. Il y a une intelligence divine et une intelligence humaine. Il a une intelligence humaine dans sa nature humaine, il a une intelligence divine dans sa nature divine. Il a une volonté humaine dans sa nature humaine et une volonté divine dans sa nature divine. Il faut bien que les choses soient claires. Donc, quand on parle de vie, dans ce sens-là, on parle de vie intellectuelle. Dès qu'on parle de vie intellectuelle, de vie raisonnable, on parle immédiatement d'une âme raisonnable. Donc, il n'y a pas de vie raisonnable, de vie intellectuelle dans un être qui n'a pas d'âme raisonnable. C'est impossible. Donc, encore une fois, un chien, un dauphin, un éléphant n'ont aucune âme raisonnable, donc n'ont pas d'intelligence. Il ne faut pas parler donc de l'intelligence des animaux, il faut parler d'intelligence des hommes ou des anges. Bon. Et encore une fois, on n'est pas au même niveau. L'intelligence des hommes n'est pas au même niveau qu'intelligence des anges. L'intelligence angélique est largement supérieure à l'intelligence des hommes. Pourquoi ? Parce que nous comprenons les choses, j'ai déjà expliqué, je n'y reviens pas, nous comprenons les choses à partir des cinq sens que le bon Dieu nous a donnés. Donc on va abstraire à partir des sens et notre intelligence va se former à partir des sens qui ont un contact avec l'extérieur. Ces sens vont envoyer à notre cerveau une image de ce qui se passe à l'intérieur. Et le cerveau va faire une image interne de ce qui se passe à l'extérieur, qu'on appelle une connaissance par abstraction. Un ange ne peut pas connaître les choses de cette façon, puisqu'un ange n'a pas de sens, il n'a pas de corps. Qui dit sens, dit corps. Les sens sont associés à une créature corporelle. Un ange étant un pur esprit n'a pas de corps, donc il n'a pas de sens. Il n'a pas besoin de sentir, de voir, de toucher, etc. Donc l'intelligence de l'ange est à un niveau complètement différent de la nôtre. Les anges vont comprendre les choses par intuition. Une fois qu'ils ont pris une décision, ils mettent leur volonté dans cette décision. La décision est irréversible, ce qui n'est pas le cas pour nous. Donc, j'ai déjà expliqué, je n'y reviens pas, que l'homme peut commettre un péché mortel, hélas, et regretter son péché, ce qui n'est pas le cas de l'ange. Si un ange, avant d'être placé de façon définitive dans la grâce de Dieu, lorsqu'un ange a pris une décision contraire à la loi de Dieu, avant d'être confirmé en grâce, l'ange, une fois qu'il a pris cette décision, ne peut plus revenir en arrière. Donc un ange, s'il a commis un péché mortel, ce péché mortel est définitif. C'est le cas de Lucifer et de tous ceux qui l'ont suivi. Donc les anges comprennent les choses par intuition. Au-dessus de l'intelligence angélique, il y a bien sûr l'intelligence divine, qui est tout à fait infiniment supérieure, bien entendu. Donc, ainsi, la vie, exemple des pères, n'est point dans un meuble quelconque lorsqu'il est exécuté. Ce meuble, ce bâtiment, si l'on veut, est vie dans son plan, parce qu'il est vivant, dans la pensée, dans le dessein de l'ouvrier ou de l'architecte. De même, comme la sagesse de Dieu par laquelle toutes choses ont été faites, contient dans ses plans éternels tout ce qui se fait d'après ses plans, bien que ces choses ne soient point en elles-mêmes la vie, elles sont vivantes dans celui qui les a faites. Et c'est encore une fois une façon de parler. Bon. Donc, un architecte, pour reprendre l'exemple des pères, un ouvrier qui conçoit dans son esprit une machine, par exemple, qu'il veut construire, ou quelque chose de précis qu'il veut construire, eh bien, cette conception qui est purement dans l'intelligence, qui n'est pas encore passée dans la pratique, est vivante dans un sens, si vous voulez, un sens symbolique, mais elle n'est pas vivante en fait. Cependant, l'idée de cette machine qu'il veut construire est donc vivante dans l'intelligence de l'architecte d'une certaine façon seulement. Donc, selon Origène, voilà l'interprétation de cette phrase, ce qui a été fait en lui était vie, en lui était la vie, ce chapitre 1er, verset 4 de Saint Jean. Toutes les choses, dit Origène, qui ont été faites par lui et en lui sont vivantes et une même chose en lui. Elles existaient en lui comme dans leur cause avant d'exister effectivement en elles-mêmes. Pourquoi ? Parce que Dieu étant créateur de tout ce qui existe et tout ce qui existe dans le monde, il est créateur par sa puissance, par son essence. Et par sa présence, donc, j'ai déjà expliqué ces choses, encore une fois, je reviens rapidement là-dessus. Il est présent partout par sa présence. Il est partout par sa présence. Dieu est partout par sa présence parce qu'il voit tout. Il est partout également par sa puissance parce qu'il peut tout, qu'il est le créateur de toutes choses. Et il est partout par sa naissance parce qu'il est cause de tout. Une chose ne peut pas être, ne peut pas exister sans être incausée, sauf la divinité. Dieu est incausé parce que Dieu a toujours été. Pour toutes les autres choses en dehors de Dieu, les autres choses en dehors de Dieu sont automatiquement créées. Dieu seul est incréé. C'est pour ça que Dieu seul est éternel. J'ai déjà expliqué plusieurs fois que c'est une façon de parler qui est un peu dangereuse, de dire par exemple que les flammes de l'enfer sont éternelles. Les flammes de l'enfer ne sont pas éternelles au sens philosophique du terme parce que les flammes de l'enfer n'ont pas toujours existé. Elles ont commencé à exister au moment où Dieu a créé l'enfer après la révolte de Lucifer, mais apparemment elles n'existaient pas. Une âme n'est pas éternelle, le feu de l'enfer n'est pas éternel. Le feu de l'enfer a commencé à exister à une date précise et durera jusqu'à la fin, pour toujours, pour toute l'éternité. Mais c'est une façon de parler, donc quand on parle d'éternité, ce mot en strict bon sens, ne s'applique qu'à Dieu seul. Dieu seul est éternel. Donc toutes les choses qui ont été faites par lui et en lui sont vivantes et une même chose en lui. Donc, demandera-t-on comment toutes les choses qui ont été faites par le Verbe sont vivantes en lui et subsistent en lui d'une manière uniforme comme dans leur cause ? Eh bien justement, parce que Dieu est présent partout dans sa création par son essence. Dans toute la création que nous voyons autour de nous, toutes les choses qui sont autour de nous ont été créées par Dieu, ou directement ou indirectement. Une voiture, par exemple, est-ce que c'est une création de Dieu ? Pas directement, mais indirectement, oui, dans le sens que c'est Dieu qui a donné à l'ingénieur l'intelligence pour qu'il puisse concevoir une voiture, et aux techniciens, aux ouvriers, l'intelligence pour pouvoir fabriquer cette voiture selon un plan préétabli par l'ingénieur. Mais qui est celui qui a donné l'intelligence à l'ingénieur, au technicien ou à l'ouvrier ? Ben c'est Dieu. Hein ? Donc c'est Dieu qui est présent partout comme cause de toute chose. Donc il est présent par essence, ce qu'on appelle la présence par essence. Il est roi par essence. On peut même aller plus loin que ça, puisque Dieu n'est pas simplement roi parce qu'il est créateur de toute chose. Il est donc roi sur sa créature, dans toutes les créatures. On doit suivre la loi que le bon Dieu a prévue pour ses créatures. Pour les créatures qui sont que des créatures végétatives ou sensitives, Dieu a donné une loi que ces créatures végétatives et sensitives vont suivre de façon obligatoire. Une fleur n'a rien à dire, elle va se lever de terre à tel moment de l'année, au moment du printemps, ensuite elle va donner une fleur, puis un fruit, mais elle ne réalise pas ce qu'elle fait puisqu'elle n'a aucune intelligence. De même, un oiseau va commencer à construire son nid à certaines périodes de l'année parce que c'est dans son instinct. Bon. L'homme a été fait de façon différente. Nous avons une âme qui n'est pas simplement une âme végétative, une âme sensitive, mais également une âme raisonnable. Donc nous comprenons les choses que nous faisons. C'est pour ça que l'homme seul a un libre arbitre. L'ange également a un libre arbitre. Encore une fois, il faut expliquer bien, comprendre les choses. Est-ce que une âme au ciel a un libre arbitre ? Encore l'exercice de son libre arbitre. Il faut bien expliquer les choses. Selon notre façon humaine de concevoir les choses, les âmes au paradis n'ont plus de libre arbitre, dans le sens que une âme au ciel ne peut pas décider de quitter le ciel. Une âme au ciel ne peut plus pécher. Heureusement d'ailleurs, vous vous rendrez compte, la pagaille, si une âme au ciel pouvait encore pécher. Bon. De même, un démon en enfer n'a aucun libre arbitre. Il est sous le poids de la justice divine et ne peut plus rien faire pour changer cette justice. Donc ce qu'il faut comprendre par résumé, c'est que Dieu est partout comme créateur et il est partout ici comme rédempteur. Mais Dieu n'est rédempteur que des âmes raisonnables. Il n'est pas rédempteur des âmes végétatives et sensitives parce que ces âmes n'ont pas d'intelligence. La nature des êtres créés nous offre plusieurs exemples, disent les pères. Voyez comment toutes les choses que renferme la sphère de ce monde visible subsistent comme dans leur cause et d'une manière uniforme dans le soleil qui est le plus grand des astres. Comment le nombre infini des végétaux et des fruits est contenu dans chacune des semences. Comment les règles multipliées viennent se réduire à l'unité dans l'art de l'ouvrier et sont comme vivants dans l'esprit qui les met en ordre. Comment enfin le nombre infini des lignes subsiste comme une seule unité dans un seul point. Bon, c'est des comparaisons un peu tirées par les cheveux peut-être, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu est l'intelligence suprême. N'oublions pas les preuves de l'existence de Dieu qui ont été enseignées par saint Thomas d'Aquin. Donc saint Thomas va expliquer dans sa somme théologique, c'est dans la première partie de la somme, la prima part, la question 2, l'article 3 surtout. Il va se poser la question de l'existence de Dieu, la preuve de l'existence de Dieu, ce qu'on appelle les cinq preuves de saint Thomas qui viennent en fait d'Aristote, mais que saint Thomas va expliciter de façon extraordinaire. Donc il explique comment on peut prouver l'existence de Dieu, et celle qui nous intéresse ici, c'est la cinquième preuve, la preuve tirée du gouvernement des choses. On va arriver donc à un être supérieurement intelligent, donc à une intelligence supérieure. Bon. De même qu'avec la première preuve de l'existence de Dieu, à savoir la preuve par le mouvement, on arrive à un premier moteur. Par la deuxième preuve, la preuve par la notion de cause efficiente, on arrive à une cause efficiente première. Par la troisième voie, la voie du possible et du nécessaire, la voie ce qu'on appelle la preuve par la contingence, on arrive à un premier être nécessaire, par lui-même, qui ne tire pas d'ailleurs sa nécessité. Par la quatrième voie, qui procède des degrés d'être qui existent dans les différentes choses, on arrive à un être suprême, supérieur, qui est cause de tous les êtres, de toute la bonté, toute la perfection qui existe dans les différents êtres. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est la cinquième voie. Cinquième voie va arriver à l'existence, va prouver l'existence d'une intelligence suprême qui gouverne tout l'univers. Voilà ce que dit saint Thomas. Cinquième voie de preuve de l'existence de Dieu est tirée du gouvernement des choses. Nous voyons, dit-il, que des êtres privés de connaissance, comme les corps naturels, agissent en vue d'une fin. C'est ce qui nous est manifesté par le fait que toujours ou le plus souvent, ils agissent de la même manière, de façon à réaliser le meilleur. Bon, j'ai expliqué, c'est le cas d'un oiseau qui va construire son nid à une période donnée, fixé par Dieu. Il est donc clair que ce n'est pas par hasard, mais en vertu d'une intention qu'ils parviennent à leur fin. Or, ce qui est privé de connaissance ne peut tendre à une fin que dirigé par un autre, un être connaissant et intelligent comme la flèche par l'archer. Si la flèche n'est pas frappée par la corde qui est tendue par l'archer, la flèche ne peut rien faire par elle-même. Il y a donc un être intelligent par lequel toutes choses naturelles sont ordonnées à leur fin, et cet être, c'est lui que nous appelons Dieu. Donc, puisque la nature ne peut agir en vue d'une fin déterminée que si elle est dirigée par un agent supérieur, dit saint Thomas, on doit donc nécessairement faire remonter jusqu'à Dieu première cause, cela même que la nature réalise. Et de la même manière, les effets d'une libre décision humaine doivent être rapportés au-delà de la raison ou de la volonté humaine à une cause plus élevée, car ils sont variables et faillibles, et tout ce qui est variable, tout ce qui peut faillir, doit dépendre d'un principe immobile et nécessaire par lui-même. Donc il y a Dieu au-dessus, qui est l'ipsum et ses subsistances, dit saint Thomas. C'est-à-dire, l'être subsistant par lui-même. Donc en Dieu, l'essence et l'existence sont identiques, ce qui n'est pas le cas pour nous. Bon. Nous ne pouvons pas dire « je suis la voie, la vérité, la vie ». Je peux simplement dire « j'appartiens à la voie, la vérité, la vie », ce n'est pas la même chose. Bon. Alors, continuons un petit peu les textes des Pères de l'Église, même s'ils sont un peu complexes. Même très complexe, vous pouvez en voir ce qui est. En bas de la page 6, je peux les copier, voilà les textes que je voudrais rajouter. En page 6 et en haut de la page 7. De ces différents exemples puisés dans la nature, vous pourriez vous élever comme sur les ailes de la contemplation du monde physique jusqu'aux oracles du Verbe. Pour les considérer avec toute la pénétration de l'esprit et pouvoir autant que cela est donné à des intelligences créées, comment toutes les choses qui ont été faites par le Verbe sont vivantes et ont été faites par lui. Donc la vie vient de Dieu. Et Dieu seul peut donner la vie. On le voit très bien aujourd'hui avec ces imbéciles modernes qui prétendent pouvoir fabriquer, faire la vie. Ils sont incapables de la faire. Ils ne peuvent pas la faire. Ils essayent de nous faire croire qu'avec le Big Bang, la vie s'est faite toute seule. C'est absolument impossible. Mais l'énergie du Big Bang a provoqué la formation des premiers acides aminés. Ces acides aminés ensuite se sont groupés pour former les premières cellules. C'est totalement faux. Parce que le Big Bang, cette énergie, il faut bien qu'elle vienne de quelque part. Et même l'acide aminé le plus simple, l'atome le plus simple, c'est déjà d'une complexité extraordinaire. Une telle complexité ne peut pas exister sur une intelligence qui est prévue et qui dirige cette complexité. Comment voulez-vous que quelqu'un de sensé puisse nier l'existence de Dieu? Pour nier l'existence de Dieu, il faut être d'une mauvaise foi, d'une mauvaise volonté absolument faramineuse. Parce que si Dieu n'existe pas, il paraît qu'actuellement, d'après les derniers sondages, plus de 50% des Français ne croient pas en Dieu. Alors il faudrait que ces imbéciles qui prétendent ne pas croire en Dieu m'expliquent comment il peut y avoir un ordre dans l'univers. On voit bien l'ordre des saisons qui se succèdent, du jour et de la nuit, etc. Comment voulez-vous que ces choses puissent exister par elles-mêmes sans avoir été créées et sans suivre des lois physiques très précises qui ont été données par un ingénieur extraordinaire qui est Dieu? Oui. Pourquoi 50% des Français ne veulent pas de Dieu, ne croient pas en Dieu? C'est pas qu'ils ne croient pas en Dieu. En fait, ils y croient. 50% des Français ne veulent pas de Dieu. Pas pareil. Ils ne veulent pas de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien, ils ont parfaitement compris que si Dieu existe, il va falloir qu'ils rendent un compte de leur vie de péché le jour où ils vont passer devant lui. Comme ils ne veulent pas changer de vie, ils prétendent que Dieu n'existe pas. Donc, ils prétendent ne pas croire en Dieu, tout simplement pour éviter de devoir penser à un problème qui les turlupine. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils cachent la poussière sous le tapis, mais toute poussière est toujours là sous le tapis. Et même ces gens qui ne croient pas en Dieu, ils savent très bien qu'ils ont une âme. Ces gens qui ne croient pas en Dieu, ils savent très bien qu'on est incapable d'expliquer les choses naturelles sans une intervention divine. Ils le savent. Seulement Dieu les gêne. Alors, puisque Dieu me gêne, je l'élimine. Voici donc comment on doit lire ce texte, disent les pères. Je pense qu'ici c'est un texte de saint Augustin en bas de la page 6. Toutes choses ont été faites par lui, et sans lui, rien n'a été fait de ce qui a été fait. En lui était la vie. Sans lui, rien n'a été fait de ce qui a été fait, c'est-à-dire de tout ce qui devait être fait. En disant « sans lui, rien n'a été fait », en ajoutant « de ce qui a été fait », l'évangéliste embrasse toutes les créatures visibles et invisibles, exclut évidemment l'Esprit Saint, car l'Esprit Saint ne peut être compris parmi les créatures qui pouvaient être faites en appelant et appelées à la vie. L'Esprit Saint, c'est Dieu. C'est la troisième personne, la Sainte Trinité. La troisième personne, la Sainte Trinité, n'est pas créée. Alors, la deuxième personne de la Sainte Trinité n'est pas créée non plus. Deuxième personne de la Sainte Trinité en tant qu'entité divine est incréée puisqu'elle est éternelle. Cependant, la deuxième personne de la Sainte Trinité a voulu unir cette divinité qui est incréée avec une humanité qui, elle, est créée. N'oubliez pas, j'ai déjà expliqué que dans l'humanité créée de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est la deuxième personne de la Sainte Trinité, dans cette humanité créée, il y a un corps, une âme, un sang, qui ont été créés au moment précis où notre Seigneur Vierge Marie a donné son accord dans le Saint très pur, dans son Saint très pur, le jour de l'Annonciation. Alors avançons un petit peu. Encore une fois, je m'excuse si mes explications ne sont pas très bonnes parce que j'ai un peu de mal à utiliser ces textes des pères qui sont d'une très haute intelligence et mon intelligence n'est pas du tout au niveau de celle des pères. Donc vous le savez très bien, donc c'est plus difficile à expliquer. Saint Jean, chapitre 1, verset 4, deuxième partie du verset 4. Donc vous voyez, ces textes sont tellement importants que Saint Jean est obligé de séparer même des petits versets en plusieurs parties pour arriver à y comprendre quelque chose. Donc, je répète les derniers textes que nous avons étudiés. Le Verbe était avec Dieu. Le Verbe était Dieu. Il était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par lui. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Bon. C'est le verset 4, deuxième partie du verset 4 du chapitre 1 de Saint Jean. C'est cette vie qui éclaire tous les hommes. Les hommes sont privés de cette lumière parce qu'ils n'ont point d'âme raisonnable capable de voir la sagesse. Les animaux, pardon, sont privés de cette lumière parce qu'ils n'ont point d'âme raisonnable capable de voir la sagesse. Alors attention, encore une fois, il faut bien expliciter les termes utilisés. Est-ce que l'homme est un animal? Oui. L'homme fait partie de l'espèce animale, mais c'est un animal raisonnable. En français, lorsqu'on parle d'animal, en fait, on parle des animaux sans raison. Donc ici, en haut de cette page 7, quand on parle des les animaux qui, privés de cette lumière, sont privés de cette lumière parce qu'ils n'ont point d'âme raisonnable capable de voir la sagesse. Donc les animaux ne sont pas capables de voir la sagesse. Ici, on parle des animaux sans raison, c'est-à-dire des bêtes. Bon. L'homme, au contraire, qui a été fait à l'image de Dieu, est doué d'une âme raisonnable qui lui permet de comprendre la sagesse. Bon. L'âme raisonnable, c'est cette substance spirituelle douée d'intelligence et de volonté. C'est ça ce qu'on appelle l'âme raisonnable. En français, encore une fois, en général, quand on parle de l'âme, on parle de l'âme raisonnable. Pour ça, parfois, les adultes et même les enfants, d'ailleurs, sont très surpris quand je dis, par exemple, dans un cours de catéchisme, qu'un arbre a une âme. Ils disent, ah, même si il n'y a que les hommes qui ont des âmes, et les anges. Ben, un arbre a une âme, mais une âme qui n'est pas une âme raisonnable. Un arbre étant vivant a une âme, parce qu'il ne peut pas y avoir de vie sur la terre sans âme. Donc un arbre, encore une fois, a une âme végétative. Un chat a une âme végétative et une âme sensitive. Un homme a une âme végétative, une âme sensitive et une âme raisonnable. Il ne faut pas dire non plus, pas tomber dans l'erreur, en voulant expliquer un peu trop, qu'il y a trois âmes dans l'homme. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit, il y a une seule âme dans l'homme. Encore une fois, en français, quand on utilise le mot âme, on vise l'âme intellectuelle, l'âme raisonnable, substance spirituelle douée d'intelligence et de volonté. Donc, l'homme est fait à l'image de Dieu et comme preuve du fait qu'il a été créé à l'image de Dieu, il a une âme raisonnable. C'est l'âme raisonnable qui fait que l'homme est créé à l'image de Dieu. Comme tous les hommes ont une âme raisonnable, tous les hommes sont créés à l'image de Dieu. Rappelez-vous que le texte de la Genèse dit que l'homme n'a pas été simplement créé à l'image de Dieu, mais que l'homme a été également créé à la ressemblance de Dieu. Ressemblance de Dieu. Donc, tous les hommes, s'ils ont été créés à l'image de Dieu, ne sont pas tous créés à la ressemblance de Dieu. Les pères de l'Église expliquent très bien, c'est un point très important, que les hommes ont tous une âme, donc sont tous créés à l'image de Dieu, mais la ressemblance de Dieu, c'est quelque chose de supplémentaire qui se rajoute, à savoir la grâce sanctifiante. N'oublions pas que la grâce sanctifiante n'est pas quelque chose de naturel à l'homme, c'est quelque chose de surnaturel, bien que tous les modernistes prétendent que la grâce de Dieu est naturelle à l'homme. Attention, la grâce est surnaturelle, l'âme est naturelle, dans le sens que l'âme est raisonnable, douée d'intelligence et de volonté, capable de connaître Dieu et de comprendre, cette âme raisonnable est une partie de notre nature humaine. Qui dit nature humaine dit un assemblage de corps et d'âme. Donc l'âme, c'est la forme du corps, la vie, qui donne la vie au corps, ce qui donne la vie au corps. D'accord ? Donc, pour certaines personnes, Dieu va rajouter à cette âme, à cette image de Dieu, une ressemblance à Dieu, qui donc, au niveau supérieur, est quelque chose de surnaturel qui va se rajouter, surnaturel voulant dire qui se rajoute au-dessus de la nature. Donc, l'image de Dieu permet à tout homme, quel qu'il soit, d'atteindre le vrai, déjà, puisque l'objet formé de l'intelligence est le vrai. Donc même une personne qui n'a jamais entendu parler du bon Dieu, qui n'est pas baptisée, qui n'est donc pas un enfant de Dieu, parce que c'est le baptême qui fait de nous des enfants de Dieu, qui vit peut-être dans le péché mortel jusqu'au cou, à cause, entre autres, de son ignorance de la vérité, il peut peut-être vivre au moins matériellement dans le péché grave, eh bien, il a créé à l'image de Dieu, il n'a pas la ressemblance de Dieu parce qu'il lui manque la grâce sanctifiante. Donc cette grâce est quelque chose qui se surajoute, qui n'est pas donné à tous les hommes. Donc tous les hommes sont inégaux, tous les hommes ne sont pas égaux. Les hommes sont inégaux parce qu'il y en a qui ont justement la grâce du bon Dieu, il y en a qui ne l'ont pas. Bon, vous savez que Bergoglio, du haut de sa grandeur, prétend le contraire, prétend que tous les hommes sont des enfants de Dieu, que donc tous les hommes ont la grâce sanctifiante, puisqu'on ne peut pas être enfant, on est... La grâce sanctifiante nous donne quelque chose de supplémentaire. Si la grâce sanctifiante, comme le prétend Bergoglio, est une partie de notre nature humaine, tous les hommes ayant la grâce, évidemment, tous les hommes vont au ciel. C'est la rédemption universelle qui est une hérésie totale. Donc, l'image de Dieu prépare l'arrivée de la grâce, c'est-à-dire la ressemblance de Dieu. L'image de Dieu en l'homme est en puissance de devenir ressemblance. Il y a quelque chose qui peut se rajouter. L'âme, si vous voulez, est quelque chose de suffisamment grand pour pouvoir recevoir une empreinte supérieure de Dieu qui est l'empreinte de la grâce, mais que Dieu ne donne pas à tous les hommes. Verset 5 du chapitre 1er de Saint Jean. Et la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas saisie. Alors, Saint Augustin explique ainsi. Cette vie était donc la lumière des hommes. Mais les cœurs des insensés ne peuvent comprendre cette lumière, appesantis qu'ils sont par leur péché, qui leur dérobe la vue de cette divine lumière. Donc l'homme qui vit dans le péché est un petit peu un myope sur le plan spirituel. Un myope, c'est un peu comme une taupe qui ne peut pas voir supporter la lumière du soleil. Bon. Un animal qui vit la nuit, prenez par exemple un animal comme une chouette par exemple, qui vit la nuit, si vous la mettez devant une lampe, eh bien, elle ne voit plus rien. Parce que ses yeux sont habitués à ne percer que l'obscurité. Si vous mettez une chouette en plein jour, elle est incapable de même de voler littéralement en plein jour parce qu'elle ne voit plus rien, parce que ses yeux ne sont pas du tout faits pour voir dans la lumière. Par contre, ils ont un certain nombre de capacités physiques qui leur permettent de voir dans l'obscurité la plus complète, ce qui n'est pas le cas pour les hommes. On peut prendre une comparaison moderne. Imaginez quelqu'un qui a des lunettes de vue à infrarouge, donc des lunettes de grossissement à infrarouge, et bien il va être capable de voir dans la nuit. Mais vous supprimez ces infrarouges, il ne voit plus rien dans la nuit. D'accord ? Donc la vie divine donne une lumière à l'homme. Donc l'homme qui vit en état de grâce a une lumière spéciale que n'a pas l'homme qui vit dans le péché mortel. Pourquoi ? Parce que la grâce sanctifiante va augmenter la capacité, en quelque sorte, d'une certaine façon, la capacité de la lumière naturelle de l'homme. Donc tous les hommes ont les yeux, normalement. Tous les hommes sont créés avec des yeux pour voir la lumière naturelle. Mais ils sont incapables de voir la lumière surnaturelle. La lumière surnaturelle, c'est la grâce. Cette grâce n'est pas donnée à tous les hommes, mais simplement à ceux à qui Dieu l'a concédée. Donc rappelez-vous ce texte essentiel que nous expliquons régulièrement pendant l'exercice de Saint-Ignace, que lorsque le bon esprit travaille dans notre âme, on peut repérer la présence du bon esprit par un certain nombre de signes. Le premier étant la joie, la lumière, la paix. Et cette joie, cette lumière, cette paix, cette attraction vers les choses belles ouvre la porte à la grâce sanctifiante d'une certaine façon. Au contraire, lorsque je suis sous l'emprise du mauvais esprit, explique Saint Ignace de Loyola, à ce moment ça peut se repérer par l'obscurité, la tristesse, la confusion, attraction vers les choses laides. Je pense que le point le plus important, c'est que si je suis sous l'emprise du bon esprit, je peux le voir tout de suite par la joie. Si je suis sous l'emprise du mauvais esprit, je peux le voir tout de suite par la tristesse. Vous voyez ? Donc tristesse, confusion, obscurité, attraction vers les choses laides, c'est le mauvais esprit. Bon esprit, joie, paix, lumière, attraction vers les choses belles, c'est le bon esprit. Toutefois, qu'ils ne croient pas que cette lumière est loin d'eux parce qu'ils ne peuvent la voir. Donc Saint Jean rajoute, la lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas comprise. Mais la lumière est toujours là. Ce n'est pas parce que beaucoup d'hommes ne voient pas la lumière divine que ça veut dire que Dieu n'existe pas. Parce que Dieu existe et existera jusqu'à la fin, jusqu'à toute l'éternité, même si les hommes refusent de reconnaître la réalité de l'existence de Dieu. Placer un aveugle devant le soleil lui est présent, mais il est comme absent pour le soleil. Alors tout insensé est un aveugle. La sagesse est devant lui, mais comme elle est devant un aveugle, elle ne peut éclairer ses yeux, non parce qu'elle est loin de lui, mais parce qu'elle est loin d'elle. Donc, la grâce ne détruit pas la nature. Donc, on ne peut pas demander à un aveugle de voir le soleil, parce que justement, il ne peut pas avoir l'usage normal de ses yeux, sa faculté de vision. Par contre, un aveugle peut être en état de grâce. Et donc, même s'il n'a pas la faculté de voir avec les yeux de son corps, il a les facultés de voir Dieu avec les yeux de son âme par la grâce sanctifiante. La grâce sanctifiante donne une certaine idée de la grandeur, de la beauté, de la divinité. Donc, le contraire de la vie, disent les pères, c'est la mort. Et le contraire de la lumière des hommes, ce sont les ténèbres qui couvrent leur intelligence. Donc celui qui est dans les ténèbres est aussi dans la mort, et celui qui fait des œuvres de mort ne peut être que dans les ténèbres. Celui au contraire qui fait des œuvres de lumière, ou celui dont les œuvres brillent devant les hommes et qui a toujours présent le souvenir de Dieu, n'est point dans la mort. Donc c'est ça le drame aujourd'hui. Je pense qu'on vit dans une société, dans un monde mortifère, si vous voulez. On vit dans un monde de ténèbres. Donc les hommes du monde moderne sont littéralement incapables de voir la lumière du jour, incapables de voir la lumière de la grâce, parce que justement, il leur manque maintenant quelque chose qu'ils ont définitivement perdu, ou au moins perdu en grande partie. Et c'est pour cela que quand on essaie de parler de Dieu aux hommes modernes qui ne se posent même plus la question de l'existence de Dieu, on a l'impression de parler à un mur. Les gens ne comprennent plus rien du tout, parce que justement, ils ne sont pas capables de dépasser des choses naturelles. Ils vont me répondre, moi, tant que je n'ai pas vu Dieu face à face, que je ne l'ai pas touché, je ne croirai pas en Dieu. Bon. Et je réponds toujours, vous avez intérêt à réfléchir sérieusement à ce que vous êtes en train de dire, parce que le jour où vous mourrez, vous verrez Dieu. Parce que vous serez jugé par lui, d'une certaine façon. Donc, vous verrez Dieu d'une certaine façon. Et à ce moment-là, il faudra bien que vous y croyez. Donc, vous avez intérêt à y croire maintenant, parce que de toute façon, vous serez obligé de croire en Dieu le jour où vous le verrez. Donc cette lumière des hommes, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est manifesté lui-même dans la nature humaine à toute créature raisonnable et intelligente, et a révélé au cœur des fidèles les mystères de sa divinité qui le rend égal au Père. Ce que saint Paul exprime en ces termes, vous étiez autrefois ténèbres, vous êtes maintenant lumière dans le Seigneur. Donc la véritable lumière des hommes, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est l'unique lumière des hommes. Donc des hommes qui refusent notre Seigneur Jésus-Christ sont dans les ténèbres. Ipso facto. Et c'est ça qui est tellement difficile quand on parle des gens du monde moderne, on a l'impression d'avoir devant nous des taupes, des myopes complets qui refusent de voir la lumière du soleil. Elle est pourtant devant eux, ils ne la voient pas, ils ne veulent pas la voir. Encore une fois, les gens modernes ne veulent plus entendre parler du bon Dieu parce qu'ils savent que si Dieu existe, il faudrait qu'ils changent leur vie complètement. Or, ils ne veulent pas changer de vie. Comme ils ne veulent pas changer de vie, évidemment, la seule façon pour eux de s'en sortir, ici-bas sur la terre, c'est de prétendre que Dieu n'existe pas. Parce que si Dieu existe, évidemment, il va falloir qu'ils payent la facture des erreurs qu'ils ont commises. C'est comme si vous demandiez à un voleur s'il est pour le maintien des prisons en France. Les voleurs vont vous dire non, il n'y a pas besoin de prison. Évidemment, parce qu'il sait très bien que s'il y a des prisons qui existent, il va finir par y arriver. Donc, il préfère considérer qu'il n'y a pas de prison. D'autres explications ici des pères. Dites donc, disent les pères, la lumière lui dans les ténèbres, c'est le verset 5, la lumière lui dans les ténèbres ne l'ont pas saisi. Dites la lumière lui dans les ténèbres parce que le genre humain tout entier était plongé, non par nature mais par suite du péché originel, dans les ténèbres de l'ignorance qui lui dérobait la connaissance de la vérité. Or Jésus-Christ, après être né d'une vierge, a brillé comme une vive lumière dans le cœur de tous ceux qui veulent le connaître. Il n'y a pas que l'ignorance est une conséquence directe du péché originel qui s'abat sur l'intelligence. Donc la conséquence du péché originel au niveau de l'intelligence, c'est justement l'ignorance. Or, le démon, par l'orgueil, va nous faire croire qu'il n'y a pas d'ignorance en nous. Il n'y a rien de pire de parler avec quelqu'un qui est un ignare et qui ne veut pas reconnaître qu'il est ignare et qui se croit très intelligent. On a un mur devant nous. Être bête, c'est déjà triste, mais ce qui est le plus triste de tout, c'est d'avoir quelqu'un qui est bête et qui se croit intelligent. Avoir quelqu'un devant nous qui est bête et qui sait qu'il est bête et qui donc il doit prendre conseil parce qu'il n'a aucun jugement, on peut arriver à travailler avec des gens comme ça. Mais quand on a devant nous des gens qui sont bêtes et qui se croient intelligents, il y a un orgueil indestructible qui empêche toute possibilité de monter cette âme vers le bon Dieu. Les ténèbres de l'ignorance, si vous voulez, vont saisir l'âme marquée par le péché originel. Il n'y a pas que les ténèbres de l'ignorance, d'ailleurs. Rappelez-vous les quatre conséquences du péché originel. Avec l'ignorance, il y a aussi les ténèbres de la malice, les ténèbres de la faiblesse et les ténèbres de la concupiscence. Mais je pense que la plus grave, comme l'ignorance et comme l'intelligence est la faculté la plus noble chez l'homme, donc la conséquence la plus grave du péché originel est au niveau de l'intelligence. L'intelligence est viciée par l'ignorance. Il en est toutefois qui persiste à demeurer dans les ténèbres épaisses de l'impiété et de l'incrédulité. Voilà pourquoi l'évangéliste ajoute, les ténèbres ne l'ont point comprise. Donc, la lumière, je répète cette phrase des pères, la lumière luit dans les ténèbres des âmes fidèles, ténèbres qu'elle dissipe en faisant naître la foi et en conduisant à l'espérance. Mais l'ignorance et la perfidie des cœurs privés de la véritable sagesse n'ont pu comprendre la lumière du Verbe de Dieu qui brillait dans une chair mortelle. C'est pour ça que la vertu d'espérance est extraordinaire, parce que la vertu d'espérance nous fait espérer cette lumière qu'on ne voit pas encore. On est comme dans un tunnel, on voit qu'il y a une sortie au fond du tunnel, on ne voit pas ce qu'il y a après le tunnel, mais on sait par notre espérance qu'il y a une sortie dans ce tunnel. Donc on marche à tâtons, on ne voit rien, mais on sait au bout du tunnel, il y a une sortie, et là, la lumière va luire de nouveau. Mais imaginez la catastrophe sur le plan intellectuel chez tous ces gens modernes qui ne savent pas, qui ne veulent pas savoir qu'il y a une lumière de l'autre côté du tunnel. Et donc ils ne veulent pas chercher à savoir quelle est la nature de cette lumière. Donc il reste dans les ténèbres en se disant, eh bien, toute ma vie va se passer dans ces ténèbres. Je ne me préoccupe pas de savoir s'il y a une lumière après les ténèbres parce que je veux rester dans ces ténèbres. Autre considération des pères. Notre nature, considérée en elle-même, est une certaine substance ténébreuse capable d'être éclairée par la lumière de la sagesse. Lorsque l'atmosphère est pénétrée par les rayons du soleil, pardon, on ne peut pas dire qu'elle luit par elle-même, mais qu'elle est éclairée par la lumière du soleil. Ainsi, lorsque la partie intelligente de notre nature jouit de la présence du Verbe, ce n'est point par elle-même qu'elle arrive à la connaissance de son Dieu et des autres choses intelligibles, mais par la lumière divine qui l'éclaire de ses rayons. Donc la lumière ne vient pas de nous, la lumière est un don gratuit de Dieu. Un don naturel et un don surnaturel. La vie est un don naturel de Dieu, mais Dieu la donne, cette vie, et la maintient selon sa volonté. Dieu peut donner aussi notre lumière, une lumière surnaturelle, j'ai déjà expliqué, la lumière de la grâce, qu'il donne à qui il veut. Et quand on a la lumière de la grâce en nous, la lumière de la charité, il faut faire attention parce qu'on n'est pas capable de la garder longtemps par nos propres forces. Et donc il faut non seulement que Dieu nous donne cette lumière de la charité, mais qu'il maintienne cette lumière de la charité dans notre âme. Et ça, Dieu seul peut faire ça. La lumière luit donc dans les ténèbres, parce que le Verbe de Dieu, qui est la vie et la lumière des hommes, ne cesse de répandre cette lumière dans notre nature qui, considérée en elle-même, n'est qu'une substance ténébreuse et informe, et comme la lumière par elle-même est incompréhensible à toute créature, c'est avec raison que l'évangéliste ajoute, les ténèbres ne l'ont point comprise. Donc la lumière est toujours là. Et malheureusement, on ferme nos yeux pour ne pas voir la lumière. Donc les ténèbres ne l'ont pas saisie. Cette lumière, c'est la lumière insaisissable de la divinité. Donc la divinité luit dans les ténèbres. Mais malheureusement, les ténèbres sont volontairement conservées dans l'âme qui refuse d'ouvrir ses yeux pour voir notre Seigneur Jésus-Christ, qui refuse de considérer même qu'il peut recevoir la grâce pour voir notre Seigneur Jésus-Christ. Et ça, c'est des choses terribles, terribles pour un prêtre, de se rendre compte qu'on a devant nous parfois des âmes qui ne veulent pas de la lumière. Quelqu'un qui se vautre dans l'obscurité, dans la saleté morale, et qui ne veut pas sortir. Qui ne veut pas sortir de là. C'est terrible, ça. Je suis souvent rencontré des gens comme ça, surtout des jeunes, qui sont dans le péché jusqu'au cou, qui ne veulent pas s'en sortir, qui ne veulent pas même qu'on leur parle de l'existence de Dieu, d'un jugement, parce qu'ils se disent, si Dieu existe, je vais être condamné. Je vais pouvoir continuer de me vautrer dans ma crasse morale, donc je refuse l'existence de Dieu. Parce que si Dieu existe, il va condamner ma façon de vivre. Or, je vais conserver cette façon de vivre, donc Dieu n'existe pas. Je fais comme si Dieu n'existait pas. Imaginez la stupéfaction de tous ces gens-là le jour où ils vont paraître devant Dieu, parce que Dieu se manifestera à eux à ce moment-là. Passons à la page 8. Nous participons donc, premièrement, à la vie, qui, pour quelques-uns, n'est point encore la possession actuelle de la lumière, mais la faculté de la recevoir, parce qu'ils n'ont point un désir assez vif de ce qui peut leur donner la science. Donc, tout homme a le pouvoir de recevoir la grâce sanctifiante. Mais malheureusement, cette puissance à la grâce sanctifiante ne va pas passer en acte chez de nombreux individus parce qu'ils, d'une façon ou d'une autre, ils refusent cette grâce sanctifiante. Ils refusent d'ouvrir leur porte, leur fenêtre à la grâce sanctifiante. Pourquoi ? Parce que la toute-puissance de Dieu va respecter notre libre arbitre. J'en ai déjà parlé plusieurs fois, c'est un problème insondable, le problème le plus difficile en métaphysique et même en théologie, à savoir comment est-il possible pour la toute-puissance de Dieu de respecter le libre arbitre humain. Comment la toute-puissance de Dieu ne va-t-elle pas écraser complètement le libre arbitre humain ? La toute-puissance de Dieu respecte le libre arbitre humain. Donc il faut tenir d'un côté le libre arbitre humain, d'autre côté la toute-puissance de Dieu. La toute-puissance de Dieu respecte le libre arbitre humain. Donc, si je vais au ciel, c'est par la grâce du bon Dieu. Mais si je tombe en enfer, c'est ma faute. Donc, on ne peut pas dire « je vais au ciel » parce que c'est moi qui l'ai voulu. Non. Vous allez au ciel parce que Dieu vous a donné une grâce spéciale pour que vous puissiez y aller au ciel. Et si je tombe en enfer, vous ne pouvez pas dire « je tombe en enfer, mais ce n'est pas de ma faute, c'est parce que Dieu ne m'a pas donné des grâces. » Non. Parce que vous allez en enfer par votre propre volonté. Et vous avez refusé les grâces que Dieu vous donnait librement. Ah, mais bon, l'objection est très forte. Il y a des gens qui vont nous dire, qui connaissent un peu la philosophie, qui vont nous dire, mais monsieur l'abbé, c'est pas de ma faute si je viens d'être grâce, parce que moi, les grâces que j'ai reçues de mon Dieu ne sont que des grâces insuffisantes. Ce sont pas des grâces efficaces, c'est des grâces suffisantes. Et donc, en fait, la grâce suffisante est insuffisante pour pouvoir recevoir la grâce du bon Dieu, parce qu'elle n'est pas efficace. Donc, si je ne peux pas répondre à la grâce de mon Dieu, ce n'est pas de ma faute, c'est que Dieu ne m'a pas donné une grâce suffisamment forte pour que je puisse répondre à cette grâce. Et c'est là où il faut reprendre le même dogme, à savoir que la grâce toute-puissante de Dieu respecte notre libre arbitre. Alors, encore une fois, il ne faut pas chercher à répondre trop à ces questions, parce que c'est impossible, on ne peut pas trouver de solution, c'est un mystère. Un mystère, par définition, quelque chose d'incompréhensible. On peut l'éclairer un peu, mais on ne peut pas le percer complètement, c'est impossible. Pour d'autres, au contraire, disent les pères, cette vie est la participation actuelle à la lumière. Ce sont ceux qui, suivant le conseil de l'apôtre, recherchent les dons les plus parfaits. C'est le verbe de la sagesse qui est suivi de près par les enseignements de la science. Et donc Dieu, plein de miséricorde, est prêt à nous donner les lumières de sa grâce. Mais il faut que d'une certaine façon, nous ouvrions la porte de notre âme, la fenêtre de notre âme, pour que Dieu puisse rentrer. Bon, c'est vrai que c'est compliqué, parce que pour ouvrir la porte de mon âme ou ouvrir la fenêtre de mon âme, pour que la grâce de bon Dieu puisse rentrer, il faut déjà une autre grâce. Il faut une grâce prévenante de Dieu qui me permet d'ouvrir la porte ou la fenêtre de mon âme. Alors, il faut s'accrocher à une phrase très importante, c'est que Dieu ne refuse jamais sa grâce à celui qui la demande avec humilité. Page 8, donc, un texte de Saint Jean Chrysostome. La vie dont parle ici l'évangéliste, donc c'est le verset 4, la vie était la lumière des hommes, la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas saisie. Donc cette vie dont parle ici l'évangéliste n'est pas seulement celle que nous avons reçue par la création, mais la vie éternelle et immortelle qui nous est préparée par la providence de Dieu. Dieu nous a donné une âme si grande que cette âme est capable de recevoir Dieu présent par sa grâce. Lorsque nous entrons en possession de cette vie, l'empire de la mort est à jamais détruit. Dès que cette lumière brille à nos yeux, les ténèbres disparaissent sans retour. Ni la mort ne peut triompher de cette vie qui est éternelle, ni les ténèbres obscurcir cette lumière qui ne s'éteindra jamais. Et la lumière nuit dans les ténèbres. Ici, l'évangéliste parle de la lumière éternelle, donc la lumière divine qui ne peut pas s'éteindre. De même qu'une personne qui a passé le temps et qui est passée dans l'éternité, qui n'est plus dans le temps mais dans l'éternité, qui a été jugée par Dieu et qui est au ciel, jouit de cette lumière éternelle qui ne pourra plus jamais s'éteindre. Malheureusement, dans le monde moderne, il y a des lumières, des étoiles qui se sont éteintes et qui ne se rallumeront jamais. Je crois que c'est Churchill qui avait dit ça à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il avait parfaitement raison. Des lumières se sont éteintes qui ne se rallumeront plus jamais. Et on le voit très bien en France aujourd'hui, où la plupart des Français modernes, contemporains, sont incapables d'élever leur esprit au-dessus du nombril, parce que justement, tout autour d'eux les pousse à ne vivre que dans les choses purement matérielles. Quand on voit des jeunes qui sont capables de passer 8 à 10 heures par jour sur leur téléphone portable ou à jouer avec un petit jeu vidéo, comment voulez-vous que ces âmes puissent s'élever un petit peu vers Dieu, alors que ces âmes qui étaient supposées être devenir des anges sont devenues des taupes, littéralement, qui se complaisent, des taupes qui, ou des porcs qui se complaisent dans la saleté de la boue dans laquelle ils jouent. Donc, ces ténèbres, c'est la mort et l'erreur. Car la lumière sensible ne luit pas dans les ténèbres, mais elle disparaît à son approche. Tandis que la prédication de Jésus-Christ a brillé au milieu de l'erreur qui étendait son règne sur toute la terre et l'a chassée devant elle. Et Jésus-Christ, par sa mort, a changé la mort en vie et a remporté sur elle un triomphe si complet qu'elle a délivré ceux qu'elle retenait captifs. Donc, les pires des ténèbres, c'est les ténèbres moraux, les ténèbres de l'erreur. Ténèbres du péché. Vous voyez ? Et ça, encore une fois, c'est quelque chose que le monde moderne ne veut pas comprendre. On craint la mort physique et on ne se préoccupe pas de la mort spirituelle. On craint la mort spirituelle, la mort physique, mais on ne se préoccupe pas de la mort éternelle. La mort physique, c'est la séparation entre le corps et l'âme, on va tous y passer. La mort spirituelle, c'est infiniment plus grave. La mort spirituelle, c'est l'arrivée du péché mortel dans une âme en état de grâce. Mais la mort spirituelle est une mort qui peut ressusciter, qui peut changer, qui peut redevenir vie avec une bonne confession ou un acte de contrition parfaite. Et le pire, c'est le troisième degré, la troisième mort, savoir la mort éternelle, c'est le passage du temps à l'éternité en état de péché mortel. La pire des choses qui puissent nous arriver, c'est ça. Il n'y a rien de pire. C'est donc parce que cette prédication n'a pu être vaincue ni par la mort ni par l'erreur et qu'elle brille de toutes parts du plus vif éclat et par sa propre force que l'évangéliste ajoute les ténèbres ne l'ont pas comprise. C'est ça le problème, c'est qu'il y a une telle contradiction entre les ténèbres du monde moderne et la lumière de la grâce sanctifiante que les ténèbres ne veulent même plus s'approcher de la lumière parce qu'ils se rendent compte qu'ils vont être aveuglés totalement par cette lumière. Et il n'y a rien de pire que de faire boire un âne qui n'a pas soif, dit le proverbe. Vous voyez ? Et c'est tout à fait ce qui se passe. Les hommes modernes sont des ânes qui ne veulent plus se rapprocher de la lumière parce qu'ils sentent confusément que s'ils se rapprochent de la lumière, ils vont être éclairés et donc voir la saleté de leur vie dans laquelle ils traînent et qu'ils ne veulent pas voir cette saleté. Et donc ils ne se rapprochent pas de la lumière. Comme une maman, si vous voulez, une femme qui a lavé un drap, qui sait très bien que son drap est sale, elle s'en rend compte, mais elle ne veut surtout pas s'approcher de la lumière, donc elle reste dans l'obscurité de sa buanderie en disant oui, bon, peut-être encore des taches, mais je fais comme si le drap était propre, mais le drap lui paraît propre parce qu'elle est dans la buanderie où il y a peu de lumière. Elle sait très bien que si elle sort dehors avec le drap sous le bras et qu'elle présente ce drap à la lumière du soleil éclatant, elle va voir à ce moment toute une série de taches. Mais elle ne veut pas voir ces taches. Parce qu'elle sait que si elle voit ces taches, il va falloir qu'elle relave de nouveau ce drap. Elle ne veut pas remettre le drap dans la machine à laver. Donc, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle reste dans la buanderie Il dit, bon, je ne vois pas de tache, donc je plie mon drap et je le mets dans le placard, c'est considéré comme drap propre. En fait, elle sait très bien au fond d'elle-même que vraisemblablement ce drap n'est pas propre, mais sale. Mais c'est elle qui veut rester dans la saleté. Et c'est une comparaison n'est pas raison, mais c'est pour expliquer qu'on est un peu comme ça. On ne veut pas s'approcher de la lumière parce que la lumière risque de nous ouvrir les yeux et nous obliger à changer certaines choses qu'on ne veut pas changer dans notre vie de tous les jours. Donc, conclusion des pères, le Christ vint pour ouvrir les yeux qui avaient été aveuglés par le démon. Le démon entraîne une cécité morale, une cécité spirituelle. Voilà, donc nous allons arrêter là parce que ça fait déjà plus d'une heure que je vous parle. Et nous continuons, si Dieu veut, la semaine prochaine. Nous allons terminer par une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Dans saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Jérôme, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.